Radio Okapi.
Le journal Jocelyne Moussa Opondé.
Coopération entre les FARDC et l'armée ougandaise. Bintou Keïta souligne la nécessité de permettre à la MONUSCO de continuer l'appui à l'armée congolaise. La chef de la mission onusienne en RDC l'a dit hier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, bénéficie d'une liberté provisoire depuis hier. Cette liberté est assortie d'une grande caution et de certaines conditions, selon des sources judiciaires. Crise politique depuis la destitution du gouvernement provincial du Sud-Kivu par motion de censure le 4 novembre dernier. Les députés demandent aux institutions bancaires de suspendre toutes les opérations au compte du Trésor public. Analyse de la situation avec le professeur Arnold Nyaluma. Bonjour à tous. La chef de la MONUSCO dit avoir pris note de la décision souveraine de la RDC d'amorcer des opérations militaires conjointes avec l'Ouganda au Nord Kivu et en Ituri. Cependant, Bintou Keïta affirme avoir souligné aux deux États la nécessité absolue de mettre en place des mécanismes de coopération afin d'assurer la sécurité des casques bleus, mais aussi de permettre à la MONUSCO de continuer d'appuyer les FARDC, dont la protection des civils et la neutralisation de groupes armés conformément à son mandat. Elle a déclaré hier lundi au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. On écoute Bintou Keïta.
Dans mes interactions avec les plus hautes autorités des deux États, j'ai pris note de la décision souveraine de mener cette action militaire conjointe et j'ai souligné la nécessité absolue de mettre en place des mécanismes opérationnels de coopération afin d'assurer la sécurité des casques bleus des Nations Unies et de permettre à la mission de continuer d'appuyer les FARDC dans la protection des civils et la neutralisation des groupes armés conformément au mandat qui lui a été accordé par ce Conseil. Ces mécanismes sont en train d'être mis sur pied. À cette fin, le 2 décembre, le commandant de la force de la MONUSCO s'est rendu à Kampala pour définir avec les autorités les modalités pratiques de cette coordination tripartite qui couvrira, entre autres, les aspects liés à la sécurité de l'aviation, la protection des forces participant aux opérations et l'accès humanitaire aux populations affectées. Demain, le commandant de la force sera à Kinshasa pour rencontrer la hiérarchie militaire des FARDC afin de poursuivre ce dialogue initié à Kampala. Je tiens également à souligner que la MONUSCO, dans le cadre de son mandat, va continuer de suivre et rapporter toute violation éventuelle des droits humains commises sur le territoire congolais.
Les défis auxquels le gouvernement congolais est confronté dans la mise en œuvre de l'état de siège mettent en exergue les limites d'une approche strictement militaire à la protection des civils et la neutralisation de groupes armés. Ces propos sont également de Bintou Keïta, toujours devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. La chef de la MONUSCO estime que pour que la stabilité revienne dans l'est de la RDC, je cite, l'État doit réussir à restaurer et à maintenir la confiance de la population en sa capacité à protéger, administrer, délivrer la justice et répondre à ses besoins essentiels. Fin de citation. On écoute Bintou Keïta.
Les défis auxquels le gouvernement est confronté dans la mise en œuvre de l'état de siège mettent en exergue les limites d'une approche strictement militaire à la protection des civils et la neutralisation des groupes armés. La période de l'état de siège a vu en effet une augmentation de 10% du nombre de violations et abus des droits de l'homme dans le pays, comparée à la période précédente, attribuable dans la grande majorité aux groupes armés et aux forces de sécurité dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une solution durable à la violence à l'est de la République démocratique du Congo nécessite un engagement politique plus large pour s'attaquer aux causes profondes des conflits. Afin que la stabilité revienne à l'est du Congo, l'État doit réussir à restaurer et à maintenir la confiance de la population en sa capacité à protéger, administrer, délivrer la justice et répondre à ses besoins essentiels. Je l'ai souligné régulièrement dans mes échanges avec le chef de l'État et avec la primature.
La situation humanitaire continue de se dégrader dans l'est de la RDC, conséquence de l'insécurité. C'est encore la patronne de la MONUSCO qui l'a souligné hier lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Bintou Keïta a précisé que le nombre de déplacés se situe à près de 6 millions, dont 51% des femmes. Ce nombre étant le plus élevé du continent africain, elle a ainsi appelé les partenaires et donateurs internationaux à redoubler leurs efforts pour apporter le soutien financier adéquat à la RDC. On écoute encore une fois Bintou Keïta.
La situation humanitaire continue de se détériorer à l'est du pays en raison de l'insécurité et des épidémies combinées à un accès limité aux services de base. Le nombre de personnes déplacées dans le pays se situe à près de 6 millions, dont 51% de femmes. Il s'agit du nombre le plus élevé de personnes déplacées à l'intérieur du pays sur le continent. À cela est venue s'ajouter l'apparition de nouveaux cas du virus Ebola. Je voudrais à cet égard saluer l'implication des partenaires humanitaires qui se sont rapidement mobilisés pour aider le ministère de la Santé à prévenir la propagation de la maladie. Je saisis cette occasion pour réitérer l'appel aux partenaires internationaux et aux donateurs pour redoubler leurs efforts dans le cadre du plan de réponse humanitaire pour la République démocratique du Congo, qui n'a reçu à ce jour que 34% du financement nécessaire.
Concernant le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, la chef de la MONUSCO a insisté sur la nature civile et décentralisée de ce programme, privilégiant la réinsertion communautaire des combattants. Cela, dit-elle, en bannissant toute amnistie et intégration automatique dans l'armée. On l'écoute.
À la suite de la mise en place du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, le gouvernement a établi un groupe de travail technique conjoint pour assurer la coordination entre les Nations Unies et les autorités congolaises dans l'opérationnalisation de ce programme. J'espère que ce groupe servira d'instrument pour catalyser le soutien international au programme. Je voudrais ici encourager le gouvernement à procéder sans délai à la nomination des coordonnateurs provinciaux du PDDRCS. J'invite la coordination nationale à sensibiliser tous les acteurs concernés, y compris les forces de défense et de sécurité, sur la nature civile et décentralisée du programme, privilégiant la réinsertion communautaire des combattants et bannissant toute amnistie et intégration automatique dans l'armée, conformément aux principes arrêtés. Le soutien international et la réussite du programme en dépendent.
Notez que ce dossier est signé Alain Irung. Vous le savez, les armées congolaises et ougandaises ont lancé depuis 6 jours des opérations conjointes contre les rebelles ADF dans le territoire de Beni, dans l'est de la RDC. Mais que sait-on actuellement des positions de ce groupe armé accusé de tuer des civils depuis 7 ans dans cette région? Tentative de réponse avec Martial Papimukeba.
Peu d'informations certaines sont connues sur les positions actuelles des ADF. Selon plusieurs sources sécuritaires, l'état-major actuel des ADF se trouverait à la limite des territoires de Mambasa et Irumu dans la province de l'Ituri. Les ADF auraient déplacé leur quartier général de Beni vers cette région juste après l'instauration de l'état de siège au nord Kivu et en Ituri. La proximité avec les positions de la milice Codeco et la volonté d'étendre leurs attaques en Ituri sont les principales motivations de cette démarche des ADF, expliquent les mêmes sources, faisant savoir que depuis quelques mois, ces rebelles ont également vidé plusieurs de leurs campements traditionnels situés dans la région de Beni. Ils auraient formé des petits groupes d'une quarantaine de combattants qui opèrent sur différents axes avec comme objectif de mener des attaques pour se ravitailler et infiltrer les grandes agglomérations pour obtenir des renseignements. Toujours à en croire des sources sécuritaires, Moussa Sekabaluku, l'actuel leader des ADF, ne dispose pas des campements fixes. Il se déplacerait régulièrement dans la région de Beni, grâce notamment à des réseaux de complicité mis en place par les ADF depuis quelques années. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Liberté provisoire accordée hier lundi à Vital Kamerhe, président de l'UNC, selon des sources de la Cour de cassation. Selon ces mêmes sources, cette liberté est assortie d'une grande caution et de certaines conditions. Reste maintenant à notifier l'ordonnance de la Cour aux concernés et aux responsables de la prison centrale de Makala pour exécution. Mais il reste à la disposition de la Cour où son pourvoi en cassation va se poursuivre en dépit de cette liberté. Signalons que cette nouvelle a donné lieu à des liesses populaires dans la ville de Bukavu, fief de Vital Kamerhe. Nommé directeur de cabinet du chef de l'État en janvier 2019, Vital Kamerhe a été arrêté le 8 avril 2020 et condamné à 20 ans de prison au premier degré, puis à 13 ans au deuxième degré avec l'entrepreneur libanais Jamal Sami, 79 ans, pour le détournement d'environ 50 millions de dollars. Restons dans le domaine judiciaire, les plaidoiries des parties dont la cause sur l'assassinat de Rossi Mukendi ont eu lieu hier lundi à la cour militaire de Kinshasa Matete, siégeant en foraine à la prison militaire de Ndolo. Les parties civiles composées des différents membres de la famille de Rossi Mukendi ainsi que le mouvement Debout Congolais ont demandé une somme de 11 millions de dollars américains comme frais de réparation des dommages causés. Autre nouvelle, le Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, BCSPC, appelle le peuple congolais et tous les Africains de manière générale à n'accorder aucun crédit au rapport des 19 médias partenaires et de 5 ONG étrangers dénommés Congo Hold Up. Lors d'une conférence de presse tenue hier lundi à Kinshasa sur le projet de coopération sino-congolais, ce bureau est revenu sur les différentes clauses contenues notamment dans des contrats entre l'État congolais et de groupes d'investisseurs chinois. Parmi ces contrats, précise le BCSPC, et il y en a des privés sans aucun engagement avec le gouvernement. John Omombo, porte-parole du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, s'exprime au micro de Billy Yvon Lutumba.
Le BCPAC n'accorde aucun crédit à ce rapport. Il s'agit d'une campagne de diabolisation qui vise à décourager les Africains à œuvrer dans le secteur bancaire, à jeter un discrédit sur la Banque centrale du Congo, comme si la Banque centrale du Congo n'arrive pas à jouer son rôle, alors que eux savent que la Banque centrale du Congo est appelée à discuter avec le FMI et la Banque mondiale. On jette un discrédit sur des personnalités, une sorte de fixation, un fixisme sur des personnalités, un discrédit sur la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. C'est un rapport qui n'a aucun crédit.
Qui a sorti au moins des révélations avec des chiffres.
Le problème, c'est savoir quel est l'état actuel du projet de coopération sino-congolais, le projet minier, le projet d'infrastructure et la centrale hydroélectrique de Busanga qui a posé problème. Les gens ne se sont pas rendus compte qu'il y a une loi qui libéralise le secteur de l'énergie et ne savent pas que le projet Busanga est un projet privé. Et l'État n'a rien à voir dans ce projet parce que l'État n'a rien investi, n'a rien garanti et l'État ne payera rien. Au contraire, l'État a été porté par les entrepreneurs chinois pour que l'État ait un droit de regard à travers la SNEL et la GECAMI. Mais l'État n'a rien investi. Personne ne peut démontrer par un quelconque élément que l'État a investi dans le projet Busanga. Ce sont des questions qui nous intéressent, pas Congo Hold-Up. Heureusement, l'IGF, en toute responsabilité, a rétabli la vérité, a recadré les choses.
Dans la série des révélations de Congo Hold-Up, parlons de la convention signée entre la Chine et la RDC pour des prêts d'un montant de 6,2 milliards de dollars pour l'exploitation des gisements en RDC contre des infrastructures. Ces médias et ONG indique entre autres qu'au moins 30 millions de dollars ont été versés au premier cercle de l'ancien président Joseph Kabila et une partie de fonds ont transité par le compte du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. Rendons-nous au Congo central. Aucun autre frais de scolarité ne peut être demandé aux parents en dehors de ceux fixés par le gouvernement provincial. C'est ce qu'a déclaré hier lundi le ministre provincial de l'éducation de cette province dans le cadre de la vulgarisation de l'arrêté provincial portant fixation des frais de scolarité pour les écoles publiques de la maternelle, de l'éducation de base et des humanités dans cette province. Cet arrêté a été rendu public le 1er décembre dernier. Selon Serge Kouébena, il ne faudrait pas que l'enseignement devienne un commerce. Il invite par ailleurs les parents à avoir la volonté de payer ses frais pour motiver les enseignants à travailler de manière adéquate. Le point avec Nana Plourich-Mambou.
À la suite de la circulaire du ministère de l'EPST 17 septembre 2021 relative aux directives sur les frais de scolarité pour l'exercice 2020-2021, l'arrêté provincial signé le 1er décembre dernier fixe les taux des frais de scolarité pour les écoles publiques, de la maternelle, de l'éducation de base et des humanités comme suit. 108 000 francs congolais pour la maternelle en raison des 38 000 au premier trimestre et 35 000 francs pour chacune des deux derniers trimestres. Les élèves du cycle terminal de l'éducation de base phases, donc la 7e et la 8e, paieront 96 000 francs pour les 3 trimestres. Ceux des humanités pédagogiques, littéraires et scientifiques vont débourser 108 000 francs pour toute l'année, dont 38 000 au premier trimestre. Aux humanités techniques, commerciales et sociales, les frais sont fixés à 120 000, dont 42 000 au premier trimestre. Aux humanités techniques agricoles, 123 000 francs, dont 43 000 au premier trimestre. Enfin, aux humanités techniques industrielles, 132 000 francs congolais. Cet arrêté précise que les frais de Minerval, des bulletins scolaires et des cartes d'identification sont tous fixés à 1 000 francs chacun, soit 3 000 francs au total. Ces frais sont annuels et déjà inclus dans les frais du premier trimestre. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les États-Unis déconseillent aux Américains les voyages en France, en Jordanie, au Portugal, en Tanzanie et dans d'autres pays en raison de risques liés au Covid-19. Les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont désormais relevé à un niveau très élevé l'avertissement sanitaire pour plus de 80 pays dont l'Andorre, Chypre ou encore les Liechtenstein. En Éthiopie, le gouvernement fédéral poursuit son avancée dans le nord du pays. Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed assure avoir repris lundi les villes de Dessi et de Kombokla, deux agglomérations de plus de 200 000 habitants, alors que les rebelles tigréens du TPLF s'est trouvé à 180 km de la capitale Addis Abeba. Il y a 10 jours, ces derniers ont entamé un retrait vers la région du Tigré. Le parti tigréen du TPLF a qualifié ce retrait de réajustement territorial.
L'invité.
La province du Sud Kivu traverse une crise politique indescriptible depuis la destitution du gouvernement provincial par motion de censure le 4 novembre dernier. Le ministre provincial de l'Intérieur assume l'intérim du gouverneur sur proposition du chef de l'exécutif déchu. Les députés demandent aux institutions bancaires de suspendre toutes les opérations au compte du Trésor public. Comment la province va-t-elle fonctionner dans une telle situation? Le professeur de droit administratif à l'Université catholique de Bukavu, Arnold Nyaluma, interroge la loi sur la libre administration des provinces. Il est au micro de Jean Kassami.
Professeur Arnold Nyaluma, bonjour.
Bonjour.
Les députés provinciaux ont voté dernièrement une motion de censure contre le gouvernement. Le gouvernement lui-même n'est pas conscient de cette motion. Aujourd'hui, la province se trouve dans une situation inadéquate. Qu'est-ce que la loi prévoit dans pareilles circonstances? Qui doit gouverner la province jusqu'à nouvel ordre?
Selon la loi sur la libre administration de province, lorsque le gouvernement tombe par une motion de censure, il est réputé démissionnaire, c'est-à-dire il ne peut plus poser des actes. Le gouverneur ou le gouvernement ne peut pas déclarer nul une motion, il doit plutôt introduire un recours. Mais en attendant, il n'exerce plus le pouvoir, peu importe les éventuelles irrégularités. Alors, qui doit diriger la province pour l'instant? C'est le vice-gouverneur. Mais lui aussi et tous les ministres ne peuvent qu'expédier les affaires courantes, puisqu'ils sont des missionnaires. Et donc, ils ne peuvent prendre aucune décision, sauf les décisions urgentes et les décisions de gestion courante. Ils ne peuvent pas nommer, ils ne peuvent pas révoquer, et même pour engager un certain nombre de dépenses, ils doivent chaque fois se référer au bureau de l'Assemblée provinciale. Nous pouvons considérer donc que pour le moment, l'administration provinciale est en arrêt. La province n'est pas gouvernée parce que les intérimaires qui expédient les affaires courantes n'ont pas le pouvoir de décision.
Récemment, le gouverneur déchu a tenu un conseil de ministres et au cours de ce conseil, il a désigné le ministre provincial de l'Intérieur en qualité d'intérimaire le temps que lui fasse Kinshasa. Est-ce que cela est contraire à la loi?
Oui, c'est vraiment de la rébellion parce que dès l'instant où la motion a été votée, il ne pouvait plus poser des actes en tant que gouverneur. Alors, ce qui est admissible, le gouverneur et le vice-gouverneur étant invités à Kinshasa, il va de soi que c'est le ministre de l'Intérieur qui devait assurer l'intérim. Mais ce n'est pas le gouverneur qui devrait le désigner, puisque lui, à ce moment-là, il est dénué de tout pouvoir. C'est le vice-gouverneur qui devrait désigner le ministre de l'Intérieur en tant qu'intérimaire.
Une telle situation devrait durer combien de temps et quelle est la procédure qui pourra suivre?
30 jours maximum. en principe, dans les 30 jours, la CENI devra organiser les élections. Parce que la province ne veut pas rester sans autorité habilitée à prendre des décisions. Nous espérons que ça sera le cas, parce que depuis un temps, on observe dans beaucoup de provinces, plus de 10 provinces, les gouverneurs ont été renversés et les élections n'ont pas été organisées. Ça fait donc que toutes les actions de développement, toutes les décisions importantes sont aux arrêts. C'est une manière de paralyser le fonctionnement des provinces.
Est-ce qu'on peut considérer la décision des députés comme étant une décision finale tant que la justice ne s'est pas encore prononcée?
Ce n'est pas une décision finale, mais en droit administratif, le recours n'est pas suspensif. C'est-à-dire, le gouverneur doit d'abord s'exécuter. Pour l'instant, il n'est pas gouverneur. C'est si seulement il est réhabilité par la cour d'appel, la cour constitutionnelle, ça dépend de quelle juridiction il va saisir. C'est si il est réhabilité qu'il pourra encore reprendre ses fonctions. Mais en droit administratif, la décision est immédiatement applicable, ce qu'on appelle le privilège de l'exécution préalable.
Admettons qu'il soit réhabilité par l'institution qu'il voudra bien saisir, mais pour les cas d'espèce, la cohabitation entre l'exécutif et le législatif au niveau de la province, est-ce que ça ne va pas poser problème?
Ça, c'est la dimension politique, effectivement, la motion de censure. On peut les réhabiliter, mais là, déjà, 28 députés contre. Donc, même si l'Assemblée en comptait 48, il n'aura pas de possibilité de gouverner.
Professeur Arnold Nyaluma, merci.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Alain Hirung, Jean-Claude Nsiala, la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.